Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. La Bible, ce livre qui est sans doute le plus lu et le plus vendu dans le monde et depuis très très longtemps. Comment lire la Bible aujourd'hui? Bien, pour répondre à ces questions, nous avons Alain Gignac, professeur titulaire à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Merci d'être avec nous, Alain Gignac.
Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous.
Bien, vous êtes une personne qui va vraiment nous éclairer. Quelques questions que souvent on se pose par rapport à la Bible d'abord, puis lire la Bible aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, qu'est-ce que la Bible finalement?
Moi, je dirais que la Bible, c'est le témoignage de croyants qui racontent leur expérience spirituelle. Ce qui est spécial avec ce livre, c'est que ça nous vient de l'Antiquité. Donc, c'est le témoignage de croyants qui ont écrit de diverses manières et ont essayé de mettre des mots sur leur expérience spirituelle. Alors, ça a commencé, ça date de loin, 8-7 siècles avant notre ère. Pour l'Ancien Testament, ça s'est pas mal cristallisé pour les premiers livres de la Bible qu'on appelle la Torah ou le Pentateuque. Ça s'est cristallisé au retour de l'exil, donc autour du 5e siècle.
L'exil du peuple juif à Babylone.
Exactement. Et pour le Nouveau Testament, ça c'est pour l'Ancien Testament ou la Bible juive. Et elle était pas mal terminée d'être écrite à l'époque de Jésus. Jésus avait la Bible juive telle qu'on la connaît pas mal aujourd'hui. Et quant au Nouveau Testament, ça s'est écrit au 1er siècle, grosso modo. On sait que le premier écrit du Nouveau Testament, c'est la première lettre aux Thessaloniciens. On est capable de la dater 51. Donc, on peut dire que c'est les premiers mots de la foi chrétienne.
Et ce ne sont pas les évangiles qui ont été écrits en premier.
Non.
Donc, c'est vraiment l'épître aux Thessaloniciens par Paul.
Oui, la première. Et donc, ce sont les lettres du Nouveau Testament qui ont été composées avant les évangiles. Et les évangiles ont été écrits un peu plus tard, par la deuxième génération chrétienne, donc à partir des années 60 du 1er siècle, jusque peut-être vers les années 120.
Comment on réussit à dater justement ces écrits, pas seulement pour le Nouveau Testament? J'imagine que pour le Premier Testament ou l'Ancien Testament, c'est plus difficile, mais comment on a réussi à dater là, que c'est vraiment les évangiles ont été écrits dans la deuxième génération?
Et ça, c'est une bonne question. c'est par une sorte de recoupement, finalement. Donc, en étudiant les indices que nous donnent les écrits, on est capable de dire, bon, ben ça c'est à telle époque, ça correspond à tel moment, puis des fois on recoupe ça avec des événements de l'histoire universelle. Et aussi, c'est que il y a eu, pour ce qui est du Nouveau Testament, puis de la formation donc des écrits chrétiens, une date charnière, c'est en 70, la destruction de Jérusalem par les Romains, parce qu'il y avait eu une révolte juive. Les Romains ont complètement rasé la ville de Jérusalem que Jésus et Paul avaient connue. Et donc, on s'est aperçu que les évangiles tels que nous les avons pouvaient pas être écrits avant la destruction du temple de Jérusalem.
Alain Gignac, on dit aussi que la Bible, c'est la parole de Dieu. Comment on peut comprendre ça, que c'est la parole de Dieu, si c'est l'expérience spirituelle d'un peuple qui a vécu différents événements dans différentes époques? Comment on comprend que c'est aussi la parole de Dieu? Comment on le comprend?
Alors, ma première définition, donc, l'expérience mise par écrit par les croyants de leur expérience, ça, c'est je dirais, un regard relativement objectif sur la Bible. Quand on dit que la Bible est parole de Dieu, là, on tombe un peu dans la théologie, et donc c'est un regard de croyance. C'est que pour les Juifs croyants, pour les chrétiens croyants aujourd'hui, ces écrits bibliques nous révèlent Dieu, nous parlent de Dieu, et entre les lignes de ces écrits, on reconnaît ou on croit entendre, on discerne comme une parole un peu ineffable de Dieu. Alors, la Bible n'est pas parole de Dieu directement. Je me plais souvent à dire à mes étudiants à l'université que c'est assez récent dans l'histoire de la réflexion théologique que on a durci cette conception de parole de Dieu comme si ça venait directement de Dieu. Ça, c'est une conception, je dirais, à la rigueur musulmane. Pour les musulmans, le Coran est un livre qui vient directement de Dieu et qui a été dicté par l'ange Gabriel au prophète Mohammed. Mais pour les Juifs et les chrétiens, c'est vraiment le fait que des êtres humains, des écrivains, peut-être quelques écrivaines, mais c'était dans l'Antiquité un monde patriarcal. Et donc, il y a des écrivains qui ont pris leur plume et qui ont mis des mots sur leur foi. Hein? Et ça a été comme un héritage. Puis, aujourd'hui, ben, on part de cette trace d'une expérience spirituelle pour aller alimenter notre expérience spirituelle. Et il faut rappeler aussi que dans la Bible, il y a des récits, il y a des poèmes, il y a des lettres, donc ça ressemble à un discours mis par écrit, comme on se parle aujourd'hui, vous et moi. Il y a des proverbes. Il y a même un poème d'amour très érotisé qui est le Cantique des Cantiques. Il y a des oracles prophétiques. Alors, il y a beaucoup de genres littéraires. On a pris plusieurs moyens pour essayer de mettre des mots sur l'expérience.
Il y a plusieurs traductions aussi de la Bible. Lorsqu'on va sur Internet, on voit que pour le même verset, 4, 5, 6 traductions différentes. Comment on établit que certaines traductions font plus autorité que d'autres? Parce que ce sont quand même des écrits anciens. Donc, il y a quand même une recherche, sans doute, que certains mots, certains concepts utilisés il y a quelques siècles qu'on comprend plus ou moins. J'imagine aussi que les rédacteurs, ceux qui ont écrit, n'avaient peut-être pas une plume très littéraire. Il y a peut-être des erreurs aussi, ou la manière d'écrire. Comment on y voit clair dans les traductions?
Alors, vous comprenez que pour des textes qui nous viennent de l'Antiquité, on a parlé tout à l'heure que ça avait été composé même avant notre ère, avant l'ère commune. Alors, c'est très complexe, la transmission des textes bibliques. Mais si on simplifie un peu, ils ont été écrits en hébreu pour la Bible juive et en grec pour le Nouveau Testament chrétien. Et donc, il faut les traduire et très tôt, on les a traduits. Donc, la Bible, encore là, je compare avec le Coran. Le Coran, ça ne se traduit pas. Il faut le lire en arabe. Bien sûr, il existe des traductions, mais toutes les prières par tous les musulmans du monde entier, c'est toujours en arabe. Comme un peu les catholiques jadis avaient le latin. Mais dans l'histoire juive et chrétienne, on a toujours traduit la Bible parce que la Bible doit être accessible dans la langue du peuple de Dieu. Donc même la Bible juive en hébreu a été très tôt traduite en grec. C'est ce qu'on appelait la traduction des Septante. Il y a 70 sages hébreux qui avaient traduit de l'hébreu au grec. La Bible juive, en 70 jours, selon une légende. Ça, c'est un peu légendaire. C'est joli. Et ils avaient la même traduction, même s'ils avaient travaillé indépendamment l'un de l'autre. Alors, donc, on l'a traduit aussi assez rapidement en latin, mais on l'a en gothique, on l'a en géorgien, en arménien. Alors, la Bible a été traduite dans toutes les langues très tôt. Et encore aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de mauvaise traduction de la Bible. Toutes les Bibles qui sont sur le marché, je dirais, sont correctes. Mais elles poursuivent parfois des objectifs différents. Alors, je vais donner un exemple ou deux. La Bible en français courant. Hein? Donc, on l'a traduit de manière à ce que on puisse avoir un vocabulaire assez limité. On prend pas de mots très recherchés. Plutôt que de prendre un mot spécialisé, on va prendre une périphrase. C'est en français courant pour que ce soit plus accessible. Un autre exemple, on a eu une Bible, une traduction à laquelle j'ai participé au début du siècle, en 2001, la Bible qu'on appelait des écrivains, ou la Bible Bayard. Cette Bible, nouvelle traduction, essayait de faire le pari, de faire le lien entre le texte biblique vieux de l'Antiquité et la littérature française contemporaine. Donc, c'est des exégètes spécialistes de la Bible, en binôme, en équipe avec des écrivains contemporains, qui ont voulu redonner une fraîcheur au texte biblique. Alors, la TOB, elle est très bien. La traduction liturgique, son objectif, c'est justement que ce soit bien rendu dans une célébration liturgique chrétienne. La Bible de Jérusalem, elle a le prestige d'être peut-être la plus répandue, la plus vénérable. Alors, il n'y a pas de mauvaise traduction.
Alors, pour la TOB, c'est la traduction œcuménique de la Bible. Donc, il y a eu aussi des efforts de dialogue entre les catholiques et les protestants et d'autres confessions chrétiennes pour arriver à une compréhension assez commune ou au moins à une traduction assez commune.
Oui.
Alain Gignac, qu'arrive-t-il lorsqu'il y a des passages beaucoup plus difficiles à traduire? Comment, parce que ça a été recopié, les manuscrits anciens, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où vous dites, bon, là, on croit que ce texte-là, ce verset-là, c'est vraiment comme ça qu'on doit le traduire et le comprendre?
Ben, il faut réfléchir un peu à ce moment-là, c'est quoi la traduction? Alors, même quand quelqu'un connaît très bien l'anglais, et veut traduire le texte en français. Je comprends très bien le texte en anglais, mais là, je fais l'exercice de traduction, c'est pas si facile. Je me rends compte que je suis incapable de rendre le texte anglais en français, même si c'est ma langue maternelle, le français. Alors, c'est un peu le même problème avec la traduction biblique, c'est que quand on passe de l'hébreu au français, par exemple, où moi, j'ai travaillé beaucoup du grec vers le français, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs manières de rendre la même phrase. Alors, à un moment donné, le traducteur, c'est un interprète. Il y a sa compréhension. Puis, la langue, n'importe quelle phrase, est jamais univoque. Puis, encore plus quand c'est de la poésie, par exemple, ou encore plus quand... Peut-être, effectivement, ça peut être un vieux texte hébraïque. Il y a certains mots qu'on comprend peut-être un peu moins bien. Mais il ne faut jamais oublier donc que traduire, ce n'est pas nécessairement trahir, mais c'est faire un effort pour être compréhensible dans la langue qu'on appelle la langue cible, comme par exemple lorsqu'on traduit du grec vers le français. Le français doit être clair, mais... on perd toujours un peu quelque chose.
Alain Gignac, il y a des bibles qui se présentent dans le marché ou sur Internet où c'est que le texte hérité là, par les auteurs. Il y a des bibles aussi où il y a des notes en bas de page. Pourquoi c'est important ces notes-là? Est-ce que c'est facultatif ou ça peut nous éclairer sur la manière de comprendre le texte?
En caricaturant, on dit souvent que les notes avec les bibles avec des notes de bas de page sont des bibles catholiques et que celles qui n'ont absolument pas de notes, ce sont les bibles protestantes. Il y a comme deux philosophies de lecture. Du côté protestant, on a beaucoup mis l'accent sur la lecture individuelle de la Bible. Le croyant protestant, chrétien, est face à son Dieu. Et il y a une certaine naïveté là-dedans, à mes yeux, là, c'est que, à ce moment-là, le texte est nécessairement transparent, est nécessairement évident. Mais c'est un texte, comme on l'a dit depuis le début de l'émission, qui nous vient de l'Antiquité. Alors, c'est un monde quand même qui n'est plus le nôtre. Les routes où se promène Jésus en Galilée ou en Judée, ce n'est pas nos autoroutes d'aujourd'hui. Puis, c'est pas un monde avec Internet. Alors, faut prendre conscience de ça. Alors, les notes, une Bible catholique, elle est obligée d'avoir des notes. Parce que l'Église catholique dit, on lit ensemble, même quand on est seul dans sa chambre à lire la Bible, on est en communauté. Et on ne peut pas lire la Bible tout seul. La Bible, ça s'interprète en communauté. Il y a comme un discernement à faire. On ne peut pas faire dire n'importe quoi à la Bible. Et c'est pour ça qu'on l'écoute ensemble. Alors, les notes sont là pour faire communauté d'une certaine manière. Mais en plus, c'est que même où il y a beaucoup de Bibles, j'ai dit ça, mais il y a beaucoup de Bibles protestantes qui sont très bonnes. Là, on n'a pas parlé tout à l'heure de la Nouvelle Bible Second, qui est une excellente traduction, avec un très bel apparat de notes. Et les notes dans ces Bibles-là nous donnent des informations sur le vocabulaire. Qu'est-ce que veut dire le mot en grec, en hébreu? Nous donne des explications sur le contexte historique ou sur le contexte littéraire de ce qu'on est en train de lire. Alors, une Bible avec notes, c'est toujours d'une grande richesse. Et même quand on est traducteur de la Bible, hein, on n'est pas tout seul pour traduire la Bible, parce qu'on a tous ceux. On regarde un peu quand même les traductions qui ont été faites avant celles qu'on est en train de travailler. Et le traducteur est quelqu'un qui écoute, qui lit beaucoup ce qui s'écrit au plan scientifique sur la Bible.
Question d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Alain Gignac, professeur titulaire à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Nous parlons de lire la Bible aujourd'hui, interpréter la Bible aujourd'hui. Alain Gignac, donc toutes ces Bibles qui sont disponibles, tous ces textes qui sont disponibles, on parlait justement avant le moment musical de l'importance de lire en communauté. Quelle différence ça fait de lire avec d'autres ce texte? Quelle différence ça fait aussi d'avoir ces ressources que nous avons, nous, aujourd'hui, depuis, on pourrait dire, 70 ans à peu près, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de recherches qui se font. Qu'est-ce que ça fait? Quelle différence ça fait de lire avec d'autres?
Avant de répondre à la question, lire avec d'autres, simplement dire que depuis l'Antiquité, depuis le début des théologiens chrétiens et rabbiniques aussi, il y a eu un gros travail sur la Bible. On n'a jamais cessé, à chaque époque, de travailler scientifiquement, avec la science de chaque époque, avec le contexte intellectuel de chaque époque, on a toujours travaillé la Bible. Et là, dans l'époque moderne, ça date pas de 70 ans, là. Ça date, de 250 ans. Alors, ça commence vers les années 1750, l'étude moderne avec, l'esprit des sciences modernes, qu'on appelait le siècle des Lumières. Hein. Ça commence vers les années 1750 et même un petit peu avant. Alors, on pourrait dire qu'actuellement, on profite de la science biblique, hein, des études bibliques, depuis au moins un bon 150 ans. Alors, même un des plus grands siècles de découverte biblique, c'est le 19e siècle. Le 20e siècle aussi, et on est déjà rendu avec un quart de siècle derrière nous. Alors, lire, je reviens à votre question, lire ensemble. Alors, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue avec un groupe qui s'est nommé « La parole est à nous ».« La parole est à nous ». C'est intéressant, hein, c'est un jeu de mots, c'est-à-dire que la Bible nous appartient. Pour la partager. Et on a le droit de prendre la parole. La parole est à nous. Alors, c'est venu d'une initiative d'une paroissienne dans ma paroisse qui trouvait que les messes ne rejoignaient pas toujours les gens. Mais c'est très beau, mais il y a des gens maintenant qui sont distants, hein, qui sont vraiment, pour eux, la liturgie, la célébration catholique, par exemple, c'est un peu étrange, c'est un peu étranger. Alors, j'ai participé donc à ce petit groupe. C'était une assemblée de cuisine. Alors, il y a des assemblées dominicales à l'église, mais il y a des assemblées de cuisine. Et peut-être que c'était ça au début du christianisme. Ça ressemblait à des assemblées de cuisine dans une cuisine gréco-romaine. Alors, la parole est à nous. On lit l'évangile de ce dimanche. Et on le partage. Puis au début, ben, vous savez, bien sûr, j'ai ma réputation. Les gens savaient que j'étais le prof. J'enseigne à l'université la Bible. Alors là, il y a toujours quelqu'un au début qui m'envoyait la question. Hey, Alain, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois avoir la réponse. Alors là, au début, je jouais un peu. Je dis, ah non, je comprends pas, je sais pas. Vraiment, ça me dépasse. Ce texte-là me pose question. J'ai pas de réponse à vous apporter. Bon. Ils ont finalement compris que je voulais pas apporter des réponses, mais c'est vrai. C'est que, en lisant ensemble, c'est que là, quelqu'un dit, hey, ce qui me frappe là-dedans, c'est que Jésus semble se contredire. Ou bien, ah, ce verset-là, je le comprends pas. Il est vraiment bizarre. Puis là, ouais. Ah, ben, peut-être que ça veut dire ça. Ou, avez-vous remarqué qu'il y a un mot qui se répète 3 fois dans le même texte? Là, la parole bouge. La parole est à nous. Et finalement, en faisant circuler la parole, puis en étant à l'écoute du texte, et le texte est toujours un peu, a toujours des aspérités, a toujours comme des petites pierres qui nous font trébucher. Mais, ça nous permet de le creuser, d'échanger la parole. Il n'y a personne qui a le monopole, qui a la vérité sur le texte. Et finalement, à la fin, on sort avec plus de questions que de réponses. Mais on a comme mastiqué, on a comme mangé le texte. D'ailleurs, c'est une image qu'on trouve dans la Bible. Ça, il y a des prophètes qui devaient manger la parole de Dieu. Le texte biblique. Alors, c'est une expérience intéressante. Je ne sais pas si c'est éclairant, si je l'explique de la bonne manière, mais ça montre un peu que la parole est à nous et que pour l'interpréter, pour l'assimiler et en nourrir notre vie spirituelle, il n'y a rien de mieux comme ça que d'entrer dans un texte puis d'essayer de le voir sous plusieurs angles différents, parce que c'est ça, chaque lecteur autour de la table de cuisine a comme un angle différent, puis il y a des choses que moi je comprends, mais que mon voisin va attirer mon attention. Ah oui, c'est vrai, c'est pas évident, tu vois. Alors, en échangeant comme ça, il y a comme quelque chose qui se produit.
Et qui nourrit la communauté.
Oui.
Alain Gignac, si quelqu'un vous demande, bon, moi j'aimerais ça commencer à lire la Bible, je commence avec quoi? Très concrètement, est-ce que je commence avec le Premier Testament ou l'Ancien Testament? Ou si je veux aller dans le Nouveau Testament, je commence à lire quoi? Les Évangiles, les lettres de Paul, les psaumes, il y a la tradition de la sagesse aussi, le livre des Nombres qui est un énombrement peut-être moins conseillé.
Mm-hmm. Par où on commencerait? Peut-être pas par les lettres de Paul. Enfin, quand on se met à lire la Bible, il y a quand même des étrangetés. Puis même dans les écrits narratifs qui racontent des récits, il y a des choses qui sont pas toujours faciles, pas toujours évidentes. Je vais vous donner un exemple. Je me suis mis à relire le Pentateuque un peu par défi, par plaisir.
Donc, les premiers livres de...
Alors, j'étais dans le livre de Genèse. Puis là, je tombe sur la phrase. Ça ne m'avait jamais frappé comme ça. Isaac épousa Rebecca. Il alla dans la tente de Sarah, sa mère, et il se consola de la mort de sa mère. Bon. C'est clair à comprendre. On lit ça, mais là, on se dit, mais... qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Le mec, il se marie, il pense à sa mère. Mais c'est... bon, j'ai pas fait d'études sur ce verset, ça m'a juste frappé. Mais c'est dans le livre de la Genèse, dans la petite saga, là, Isaac, on le connaît pas beaucoup, c'est un personnage un peu mièvre qui se situe entre le grand Abraham et le terrible Jacob, surnommé Israël. Bon. Alors, je continue de réfléchir à votre question. Moi, je propose un cours d'initiation à la Bible comme littérature. Et j'ai pris les 5 petits rouleaux de la tradition juive dans l'Ancien Testament.
C'est-à-dire les 5 rouleaux?
Alors, les 5 rouleaux, ce sont 5 petits livres qui ne sont pas très longs. Alors, c'est Ruth, Esther, le Cantique des Cantiques, Coëlette, il m'en manque combien?
Il y en a 4. Ruth, Esther, Cantique des Cantiques, Coëlette
et Lamentation.
Lamentation.
Mm-hmm. Et donc, ce sont des livres courts qui ne parlent pas énormément de Dieu, mais qui parlent d'expériences de croyants qui s'interrogent. On a tous les genres littéraires. On a de la poésie. On a du récit. On a écrit de sagesse.
Coëlette, écrit de sagesse.
Coëlette. Donc, c'est des sortes de proverbes. Y a une chanson du groupe The Birds, Turn, 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 qui reprend un texte de Coëlette. Vous pourriez le faire jouer à l'émission éventuellement. Donc, ça pourrait être une porte d'entrée dans la Bible, de lire ces 5 petits livres qui racontent, qui montrent justement comment des gens, des écrivains, ont essayé de mettre des mots sur leur expérience biblique, leur expérience spirituelle. Bon. Moi, je pense que ça vaut la peine de relire les évangiles aussi, qui sont quand même plus accessibles. Puis on se garde quand même, à un moment donné, il faut sauter dans Saint-Paul. Enfin, on en reparlera peut-être éventuellement.
Lire la Bible aujourd'hui, ben Alain Gignac, un grand merci. Vous êtes professeur titulaire à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. C'est un grand plaisir de vous recevoir et de nous éclairer sur lire la Bible aujourd'hui. L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Lisandre Duplé pour Radio-VM et Yannick Caron pour Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous dis à bientôt.